Ce soir, c'est François Vannucci qui va nous parler de astrophysique, physique des particules et astroparticules. Il nous expliquera, mieux que je ne saurais le faire, le rapport qu'il y a ici entre physique et astrophysique. François Vannucci est né en 1944. Il est ancien élève de l'École normale supérieure. Il est agrégé de physique, docteur d'État. Et son statut actuel, c'est professeur de physique, il l'est d'ailleurs depuis 1980, il est professeur de physique à l'Université Paris 7, Denis Diderot, où il est chercheur en outre au laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies. Son parcours est un parcours de professeur et de chercheur. Il a été au CNRS d'abord. À partir de 1981, il est devenu professeur de physique à Paris 7. Il a rempli plusieurs missions temporaires au CERN, notamment, ou dans des universités étrangères. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées, des articles, des contributions scientifiques. Mais je signale deux ouvrages plus accessibles, si vous voulez. Interactions et particules, en collaboration avec Bernard Grosstedt, en 1990, chez Erol. Et puis, Les particules élémentaires, c'est le titre aussi d'un roman maintenant connu, Les particules élémentaires, publié au PUF, en collaboration avec Michel Crozon, dans la collection Que sais-je, en 1994. Je lui laisse la parole pour 50 minutes, et ensuite, vos questions. Merci.
Bien, merci. Bonsoir d'abord à tous. Alors, le sujet, comme il a été dit, de ce soir, c'est astrophysique, physique des particules et astroparticules. C'est un vaste programme. Je dois avouer que je ne suis pas responsable du choix du titre. Et si on était en patinage artistique, on appellerait ça une figure imposée. Et c'est même une figure un peu compliquée parce qu'elle semble mêler des sujets qui sont pratiquement à l'opposé l'un de l'autre. En effet, qu'est-ce que c'est que l'astrophysique ? L'astrophysique, c'est l'étude de l'univers à l'échelle de l'infiniment grand. Comme exemple, j'ai ici une image de ce qu'on appelle le grand nuage de Magellan, quelque chose qui se situe à des kiloparsecs, des dizaines de kiloparsecs de notre galaxie. Et donc, c'est quelque chose d'infiniment grand. À l'opposé, la physique des particules, c'est, comme vous le savez, l'étude de la nature dans son infiniment petit. Et comme symbole, j'ai représenté ici un accélérateur qui est en construction au CERN, près de Genève. C'est un anneau de 27 km, un anneau souterrain. Et autour de cet anneau, il y a deux expériences énormes qui vont regarder les particules nouvelles produites dans des interactions, dans ce cas-là, entre protons. Et vous voyez ici l'échelle de ce détecteur, c'est un petit personnage qu'on n'arrive pas à reconnaître. Alors, pour aider à situer un petit peu ces deux frontières, je vais m'aider d'une sorte de fresque un petit peu naïve qui montre, on ne le voit pas très bien, qui montre un petit homme ici coincé entre ces deux frontières, l'infiniment grand d'un côté et puis l'infiniment petit des particules élémentaires de l'autre. Et en fait, si je veux mettre des chiffres à ces deux frontières, et là ça n'entrera pas sur la feuille, si je veux mettre un chiffre, eh bien nous arrivons aujourd'hui à sonder l'infiniment grand jusqu'aux dimensions de l'univers dans sa globalité. Et on peut parler de distance de l'ordre de 10 puissance 26 mètres, tandis que du côté de l'infiniment petit, du côté des constituants élémentaires, eh bien on arrive, auprès des accélérateurs, à sonder des distances de l'ordre de 10-18 mètres. 10-18 mètres, c'est la taille minimum des structures de la matière qu'on arrive aujourd'hui à sonder. Donc vous voyez que la connaissance humaine, eh bien elle couvre un domaine de 44 ordres de grandeur entre l'infiniment petit et l'infiniment grand qu'on connaît aujourd'hui avec les techniques actuelles. Alors, où se place l'astroparticule dans ce vaste panorama de la connaissance humaine ? Eh bien, l'astroparticule, pour comprendre cette nouvelle physique, il va falloir développer une autre propriété de ces physiques, le fait que l'astroparticule, les objets qu'on étudie en astrophysique, ce sont des objets macroscopiques. On étudie typiquement des planètes, des étoiles, des galaxies, des amas de galaxies, des superamas, c'est-à-dire des objets grands. Et comment les étudie-t-on ? En observant de la lumière qui nous vient de ces objets. Et donc, pour observer cette lumière, nous avons des détecteurs optiques, et on sait que la lumière, ce sont des photons dans la gamme du visible, et donc chacun de ces objets sera défini par un flux de photons qu'on détectera, par exemple, dans des plaques photographiques ou des détecteurs à semi-conducteurs au foyer d'instruments optiques. Alors, en comparaison, les astroparticules, c'est quelque chose d'assez différent parce que les objets que l'on étudie sont maintenant non plus des objets macroscopiques, mais directement les objets microscopiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ces objets microscopiques ? Eh bien, il y a différentes études. Ça peut être des protons, des antiprotons, des noyaux atomiques, des électrons ou leurs antiparticules, les positrons, mais aussi des neutrinos et des photons de haute énergie. Donc vous voyez, dans un cas, on étudie des objets macroscopiques par un flux de photons visibles qui nous arrive sur des plaques photo, par exemple. Dans l'autre cas, on étudie directement des particules élémentaires qui nous arrivent du ciel. Alors il faut dire que ce nouveau domaine, qui on verra tout à l'heure n'est pas si nouveau que ça, a été le fruit de l'arrivée de physiciens des particules pour certains qui se sont sentis un peu à l'étroit auprès des accélérateurs et qui ont transposé leur technique de détection pour aller voir ce qui se passait dans le ciel. Et le but de cette nouvelle physique, c'est essentiellement l'étude de phénomènes extrêmement violents dans l'univers, mais aussi, puisque après tout ce sont les physiciens des particules qui ont initié ces études, aussi l'étude des propriétés des particules dans des conditions extrêmes, parce que l'univers va pouvoir accélérer ces particules bien au-delà des énergies disponibles auprès des accélérateurs. Alors, ceci dresse le tableau, et maintenant nous allons voir quelques exemples. Premier exemple que je voudrais développer un tout petit peu, ce sont les photons de haute énergie. Alors, pour ceci, j'ai un petit dessin ici, ça représente la Terre, et ça représente l'atmosphère. Alors imaginons un photon qui arrive du ciel et qui arrive au sommet de l'atmosphère. Qu'est-ce qui va se passer ? Bien, si c'est un photon visible, l'atmosphère est transparente, puisqu'on voit les photons, la lumière qui nous vient des galaxies ou du Soleil. Donc un photon visible va traverser directement et aboutir jusqu'à des instruments qui sont au niveau de la Terre. En revanche, si on considère des photons de très haute énergie, et c'est ceux-là qui vont nous intéresser maintenant, eh bien ces photons vont interagir dans la traversée de l'atmosphère. Et qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner quelque chose qu'en physique des particules, on appelle une gerbe électromagnétique, c'est-à-dire une avalanche constituée essentiellement d'électrons et de positrons. Alors, il se trouve que ces électrons et ces positrons, le long de cette gerbe, vont avoir suffisamment d'énergie pour produire, lors de leur propagation, de la lumière qu'on appelle de la lumière Tcherenkov. Alors, on partait ici d'un photon de très haute énergie, et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient un grand nombre de photons qui sont essentiellement dans le visible, qu'on va pouvoir récolter de nouveau à l'aide d'instruments optiques au niveau de la Terre. Mais vous voyez, pour un photon de très haute énergie ici, on recueille des millions de photons de basse énergie dans les instruments. Alors, des instruments qui étudient ces photons, eh bien, il y en a plusieurs sur la surface de la Terre, et en particulier ici, un détecteur qui s'appelle CAT et qui a été monté au pied des Pyrénées, à Font-Romeu. Et vous voyez à quoi ça ressemble. Eh bien, ceci, ce sont à peu près 200 miroirs qui focalisent la lumière sur un imageur, c'est-à-dire un ensemble de tubes photomultiplicateurs, des capteurs de lumière à ce niveau-là, au foyer des miroirs. Alors, quelle est la physique qu'on tire de telle mesure? Eh bien, voilà un exemple typique de ces études. C'est les photons de haute énergie à partir de ces énergies-là. Et ici, je devrais introduire un petit peu l'échelle d'énergie. En physique des particules, on a l'habitude de mesurer les énergies à partir d'une unité qu'on appelle l'électron-volt. Alors, l'électron-volt, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie d'un électron acquis dans une chute de potentiel de 1 volt. Donc, 1 électron, 1 volt, ça donne 1 électron-volt. Et vous voyez l'échelle ici commence à 10 puissance 6, donc 1 méga électron-volt, 1 million d'électron-volts. Donc, 1 électron-volt, ça sera quelque part par ici. Or, 1 électron-volt, typiquement, c'est l'énergie des photons visibles. Donc, les photons que nous recueillons du Soleil, par exemple, ont typiquement l'énergie de 1 électron-volt. Et donc, vous voyez que l'énergie, les photons qu'on recueille à partir de ces détecteurs dont je vous ai parlé, eh bien, commencent à de l'ordre de 10 puissance 12, c'est-à-dire de l'ordre de 1000 milliards de l'énergie des photons visibles. Donc, un seul photon porte l'énergie de 1000 milliards de photons visibles. Et vous voyez ici le résultat de ces expériences, alors qu'il y a une contribution qui semble décroître très rapidement en fonction de l'énergie, eh bien une seconde contribution naît et apparaît pour les photons de haute énergie. Et à partir de ces courbes, on peut en déduire des propriétés sur les phénomènes d'accélération dans cet objet qu'on étudie ici. Alors cet objet, je ne l'ai pas nommé, c'est le crabe. C'est un pulsar qui est à quelques dizaines de kiloparsecs de notre galaxie. Et juste pour donner un ordre de grandeur, il y a des émetteurs, des sources de photons visibles, il y en a des milliards, ce sont les étoiles, ce sont les galaxies. Des émetteurs de photons dans ces énergies-là, là on reconnaît les rayons X par exemple, là c'est 1 MeV, eh bien on en a répertorié de l'ordre d'un millier. Et des photons, des sources émettrices de ces photons de très très haute énergie, pour le moment, eh bien on en a trouvé encore que 4. Alors ceci c'était les photons de haute énergie. Passons maintenant à un autre exemple d'astroparticules, les rayons cosmiques. Alors, les rayons cosmiques, eh bien, c'est une vieille histoire, puisque les premiers rayons cosmiques ont été découverts en 1912, et donc vous voyez que les physiciens de l'époque faisaient des astroparticules sans le savoir. Et qu'est-ce qu'on a gagné depuis 1912? Eh bien, on a gagné simplement un très grand nombre d'ordres de grandeur dans le spectre qu'on a exploré. Ici, c'est de nouveau l'énergie de ces rayons cosmiques, et ici, c'est leur spectre. Vous voyez que plus on monte en énergie, bien plus le flux diminue, bien sûr, et on reconnaît ce qu'on appelle le genou dans ce spectre et ce qu'on appelle ici la cheville. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette région-là. Alors, ce qui se passe dans cette région-là est intéressant parce qu'il semble y avoir une coupure, une variation de pente ici. Et en fait, la théorie nous dit qu'en principe, on ne devrait pas avoir d'événements au-dessus de cette énergie-là. Alors, cette énergie, 10 puissance 20 électron-volts, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une énergie extrême. Tout à l'heure, je parlais de photons de très haute énergie, mais les photons de très haute énergie étaient limités à cette gamme ici. Maintenant, avec les rayons cosmiques chargés, on a encore gagné de l'ordre de 6 ordres de grandeur. Bien, ces énergies-là, elles arrivent à 50 joules, et 50 joules, c'est à peu près l'énergie d'un ballon de foot qui est tiré par un coup de pied de Trezeguet, pour rappeler l'actualité d'hier. Donc, vous voyez que c'est une énergie qui est concentrée en une particule élémentaire. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très particulier. Et c'est tellement particulier que c'est très très rare. Et on compte de l'ordre de 1 cosmique sur chaque kilomètre carré et par siècle d'observation. Donc, il faut être très patient si on veut accumuler des données. Et là, on a une vingtaine d'événements à peu près qui ont été accumulés sur les dernières 30 années. Et donc, si on veut augmenter la statistique pour aller voir si vraiment il y a une rupture de pente et si certains disent on voit les prémices ici d'une contribution extragalactique, eh bien, il faut augmenter la statistique. Et pour augmenter la statistique, il va falloir instrumenter une très grande surface à partir de pour détecter ces cosmiques. Alors, comment est-ce qu'on détecte ces cosmiques de haute énergie ? Eh bien, la technique est un petit peu similaire à celle vue tout à l'heure pour les photons de haute énergie. Là aussi, les cosmiques directs ne seront pas vus, mais ils vont interagir dans l'atmosphère, donner une gerbe. Alors, vous allez dire que c'est la même chose que pour les photons. Pas tout à fait. Pour les spécialistes, ici, c'est ce qu'on appelle une gerbe hadronique, alors que tout à l'heure, c'était une gerbe électromagnétique. La différence, c'est que cette gerbe-là est moins uniforme et surtout, elle a une composante de particules secondaires qui sont autres que les électrons et les protons. Eh bien, un tel projet d'instrumentation de grande surface est en train de voir le jour en Argentine, sur un plateau argentin. On est en train d'installer sur 3000 km² des détecteurs spécialisés que vous voyez ici qui tapissent tous les kilomètres et demi, qui tapissent une très grande surface. Juste pour vous donner l'idée de la dimension occupée par un tel détecteur qui s'appelle l'observatoire OG, eh bien, 3000 km², c'est cet hexagone ici. Et vous voyez l'Île-de-France, pratiquement toute tapissée. Seulement, ce n'est pas à travers les banlieues, c'est sur un plateau argentin. Alors, ceci me donnait deux exemples d'astroparticules, les photons de haute énergie et les cosmiques chargés. Je vais maintenant aborder une autre classe de particules que je vais appeler les astroparticules par excellence, et qui sont les neutrinos. Alors pourquoi ? C'est un petit peu un choix personnel, mais c'est aussi parce que les neutrinos vont apparaître à toutes les échelles de structure de l'univers. Alors les neutrinos, vous en avez probablement tous entendu parler, ce sont des particules très spéciales, on les appelle souvent des particules fantômes ou passe-muraille, et effectivement, elles ont des propriétés très particulières. Si particulières que elles ont inspiré un poète. Neutrinos are very small, they have no charge, they have no mass. Et donc, pour inspirer un poète, il faut bien qu'elles aient quelque chose de particulier. Et donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ces neutrinos peuvent sembler très fascinants pour tout un chacun. Alors, la première chose à dire sur les neutrinos, c'est qu'ils apparaissent dans beaucoup de phénomènes naturels en flux extrêmement abondants. Si je prends notre petite Terre, eh bien notre petite Terre est abreuvée par un tas de producteurs de neutrinos et en premier lieu le Soleil. Le Soleil, que j'ai représenté dans le coin, là, nous envoie 60 milliards de neutrinos chaque seconde et sur chaque centimètre carré de notre Terre. Et ces neutrinos nous arrivent aussi bien partant de beaux soleils, mais aussi partant de pluie, parce que les neutrinos vont traverser les nuages sans être arrêtés. Et même pendant la nuit, quand le soleil est aux antipodes comme ceci, eh bien, les neutrinos vont encore nous traverser avec le même flux. Ils vont arriver par les pieds, parce que les neutrinos ne sont pas arrêtés par la Terre. La Terre est transparente aux neutrinos du Soleil. Alors, le Soleil, c'est un producteur très abondant de neutrinos, mais ce n'est pas le seul. Et une autre source de neutrinos, c'est les supernovae de type 2, dans ce cas-là. Une supernova de type 2, c'est la mort d'une étoile dans une certaine gamme de masse Et quand cette étoile meurt, elle éjecte pratiquement toute son énergie, qui est phénoménale, sous forme de neutrinos. Et la production de neutrinos arrive à 10 puissance 58, ce qui est énorme. Et on a eu la chance, en 1987, de voir un tel phénomène dans l'hémisphère sud. On l'a vu sous la forme d'une boule de feu dans l'hémisphère sud, mais on l'a vu aussi sous la forme du passage des neutrinos. Et en fait, c'est le premier signe hors photon d'un phénomène extragalactique que l'on recueille sur Terre. Alors, on avait en effet, en février 87, on a eu la chance que deux détecteurs, un détecteur aux États-Unis et puis un autre au Japon, étaient prêts pour voir le passage de ces neutrinos, et chacun a vu une dizaine de neutrinos sur les 10 puissance 58 produits à l'origine, ici, mais l'origine étant à 150 000 années-lumière de chez nous. Autre producteur de neutrinos, les neutrinos d'origine atmosphérique. C'est ceux que j'ai représentés ici par les petites flèches violettes, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce sont des neutrinos qui sont produits par les rayons cosmiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui arrivent sur les couches externes de l'atmosphère, qui interagissent et qui, à la fin, vont donner des neutrinos. Alors, le flux n'est pas énorme, mais comme on va le voir, ces neutrinos sont très importants parce que certaines de leurs études semblent indiquer des propriétés de masse qu'on va développer tout à l'heure. Autre neutrino intéressant, des neutrinos galactiques ou extragalactiques de très haute énergie, en particulier venant de noyaux actifs de galaxies. Et le tour des producteurs de neutrinos n'est pas terminé, puisqu'il faut aussi parler de neutrinos d'origine humaine, même si nous parlons d'astroparticules. Les origines humaines, ça peut être soit les accélérateurs, soit les réacteurs. Et par exemple, un réacteur nucléaire d'EDF produit 10 puissance 20 neutrinos chaque seconde. Et sans aucun danger pour l'environnement d'ailleurs. Et EDF produisant, ayant un nombre considérable de réacteurs nucléaires, il se trouve que la France est un grand exportateur de neutrinos. Alors, finalement, et en fait c'est l'essentiel en nombre, finalement les neutrinos que j'ai représentés ici par des petits signes sur tout le transparent, eh bien ce sont les neutrinos qui nous viennent du Big Bang. Alors le Big Bang, on vous en parlera demain. Vous savez que le Big Bang, c'est l'origine de l'univers tel que nous le connaissons, une grande explosion originelle qui a eu lieu il y a à peu près 14 milliards d'années. Eh bien, comme signe, comme trace de cette explosion, il reste aujourd'hui ces neutrinos qu'on appelle cosmologiques et qu'on trouve à des densités de 300 dans chaque centimètre cube de tout l'univers. Alors 300 par centimètre cube, ça semble relativement modeste. Si vous vous souvenez du nombre d'Avogadro, qui est la densité de particules dans la matière, qui est 10 puissance 23 par centimètre cube. Seulement, ces neutrinos, les 300 par centimètre cube, c'est sur l'ensemble du volume de l'univers. Et donc, si vous intégrez, alors que la matière, elle est très concentrée, et donc si vous intégrez l'ensemble de ces neutrinos sur le volume total de l'univers, vous trouvez que, à l'arrivée, il y a de l'ordre de 3 milliards de fois plus de neutrinos dans l'univers que de protons, neutrons et électrons qui forment la matière ordinaire. Donc c'est une composante de l'univers qu'on ne peut pas négliger. Alors pour renforcer un peu mon propos et pour vous convaincre de tous ces neutrinos, je vous ai amené une boîte de neutrinos. Petite boîte, il y a là-dedans 36 120 neutrinos cosmologiques à chaque instant. Alors, ce ne sont pas toujours les mêmes, puisque les neutrinos, comme je vous l'ai dit, ne sont pas absorbés par la matière, mais en moyenne, il reste 36 000 et quelques neutrinos cosmologiques. Et j'ai calculé aussi que le Soleil nous en envoie de l'ordre de 200. À chaque instant, il y a à peu près 200 neutrinos du Soleil dans cette petite boîte. Et il y a aussi un millième de neutrinos du réacteur de Nogent-sur-Marne, qui est à peu près à 100 km d'ici. Donc vous voyez que les populations de neutrinos, elles sont très variées. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour reconnaître les différentes contributions de neutrinos. Je vous ai parlé de bien des producteurs. Bien, les neutrinos ont la bonne grâce de se répartir en gamme d'énergie bien distinctes. Et par exemple, ceci, c'est le spectre des neutrinos qu'on voit ou qu'on attend sur Terre. Par exemple, les neutrinos cosmologiques sont à une énergie extrêmement faible, de l'ordre du milli-électron-volt. Les neutrinos solaires sont indiqués ici, de l'ordre des 100 kilo-électron-volt. Les neutrinos de la supernova sont un tout petit peu au-dessus. Les neutrinos de réacteurs, encore au-dessus, autour du méga-électron-volt. Les neutrinos d'accélérateurs, bon, ça dépend des accélérateurs, mais typiquement, c'est dans les giga-électron-volts. Les neutrinos atmosphériques, comme ceci. Et puis, les neutrinos de très, très haute énergie, les neutrinos de noyaux de galaxies qui s'étendraient jusqu'à des hexa-électron-volts. L'hexa-électron-volt étant de nouveau l'énergie du ballon de football de Trezeguet. Alors, c'est le paradoxe des neutrinos d'être très abondant et d'être en fait la particule hors le photon, la particule la plus abondante dans l'univers. C'est le paradoxe que ces neutrinos semblent nous être complètement étrangers. Si je regarde dans la boîte, je ne vois rien. Pourquoi ? Parce que les neutrinos ont des interactions extrêmement ténues avec la matière ordinaire. Et donc, ils semblent en quelque sorte remplir un univers parallèle qui n'a pratiquement pas de contact avec notre univers de matière ordinaire. Alors, malgré tout, il y a un contact avec notre monde ordinaire, autrement nous ne saurions rien des neutrinos, et auprès d'accélérateurs, eh bien, on peut regarder l'interaction de neutrinos dans la matière, et pour donner un exemple, ceci, c'est une interaction au CERN, dans un détecteur, de neutrinos qui arrivent par la gauche, ici, et vous voyez un neutrino a interagi ici, et a donné plusieurs particules chargées qu'on détecte très bien dans le détecteur. Pour donner un ordre de grandeur, ceci, c'est un gros aimant qui fait 7 mètres de longueur à l'intérieur par 3,5 mètres de côté. Alors, parmi ces particules, on reconnaît l'une d'entre elles, qui est bien identifiée à cause de ses propriétés, comme étant un électron. Eh bien, ce neutrino qui a interagi pour donner un électron, on va l'appeler neutrino électronique. Dans la même expérience, on peut mettre en évidence un autre type d'interaction où un neutrino a interagi ici, a donné plusieurs particules chargées, dont l'une d'entre elles est identifiée comme étant un muon. Le muon, c'est un petit peu le grand frère de l'électron, c'est-à-dire une particule qui a des propriétés similaires à l'électron, mais dont la masse est 200 fois supérieure. Eh bien, un neutrino qui donne un muon après avoir interagi, c'est ce qu'on appelle un neutrino de type muonique. Alors, neutrino électronique d'un côté, neutrino muonique de l'autre, on peut se demander combien y a-t-il de types de neutrinos dans la nature. Eh bien, la réponse a été donnée par un autre accélérateur du CERN qui s'appelle le LEP, où on étudie les interactions entre l'électron et son antiparticule, le positron. Je ne vous détaille pas cette courbe, ça s'appelle la courbe d'excitation du Z0, mais vous voyez bien que les points, les données expérimentales sont bien en accord avec l'hypothèse qu'il existe 3 et seulement 3 neutrinos dans la nature. Donc, ce que nous dit cette expérience, c'est qu'il y a 3 types de neutrinos qu'on appelle le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino tauique. Alors maintenant qu'on connaît ces rudiments sur les neutrinos, allons voir un petit peu les propriétés des sources de neutrinos. Et je vous ai dit que la première source, c'était le Soleil. Donc, regardons un petit peu ce qu'il en est des neutrinos solaires. Alors ici, les théoriciens nous ont dit depuis longtemps que l'énergie produite par le Soleil est basée sur la réaction nucléaire de fusion de quatre protons qui donnent un atome d'hélium, un noyau d'hélium, avec l'émission d'une certaine énergie, 27 mégaélectronvolts, et deux neutrinos du type électronique. Et mesurant la luminosité, c'est-à-dire l'énergie totale émise par le Soleil, on en arrive à la conclusion que le Soleil produit 1,8 10 puissance 38 neutrinos électroniques par seconde. En fait, les théoriciens nous disent beaucoup plus parce que, avec des calculs plus élaborés, ils nous donnent le spectre global des neutrinos produits par le Soleil. Et vous voyez qu'il y a différentes contributions. La contribution principale qui est autour de 100 kiloélectronvolts, mais une contribution secondaire qui va jusqu'à 15 mégaélectronvolts. Alors, qu'en est-il maintenant de l'expérience sur les neutrinos solaires ? Eh bien, je voudrais ici mettre en avant un détecteur qui donne les résultats en un sens les plus probants sur les neutrinos solaires et qui s'appelle Super-Kamiokande. Alors, Super-Kamiokande, qu'est-ce que c'est ? C'est une vaste piscine qui a été construite sous une montagne au Japon et qui fait un total de 50 000 mètres cubes. 50 000 mètres cubes, pour vous donner une idée, c'est à peu près 50 fois le volume de cette salle. Et ces 50 000 mètres cubes sont remplis d'eau purifiée. Et vous voyez ici, pendant le remplissage, l'eau monte ici et vous avez trois techniciens sur un petit canot en train de vérifier que les capteurs qui tapissent toutes les parois de ce détecteur, que ces capteurs sont bien en ordre de marche. Donc vous imaginez ce volume gigantesque et que vont donner là-dedans les neutrinos ? Eh bien, quand un neutrino solaire interagit dans l'eau, il pousse un électron de la molécule d'eau. Cet électron va avoir suffisamment d'énergie pour être éjecté et là aussi, comme précédemment, cet électron va donner ce qu'on appelle de la lumière Tcherenkov, c'est-à-dire de la lumière visible. Et cette lumière visible sera captée par tous ces capteurs, ces photomultiplicateurs regardent, qui observent tout ce qui se passe à l'intérieur de ce gigantesque volume. Bien, le résultat est le suivant. Et c'est un résultat qui a été annoncé il y a une dizaine de jours dans la conférence officielle Neutrino qui a lieu tous les deux ans. Et vous voyez, au bout de trois ans de prise de données, eh bien, on représente ici la distribution de l'angle entre l'électron qui a été produit par le neutrino, c'est-à-dire la direction du neutrino incident, et puis la position du Soleil par rapport au détecteur. Et un pic ici dénote simplement le fait que les neutrinos viennent bien du Soleil. C'est en quelque sorte une image en neutrino du Soleil. Et vous voyez que cette image est très très nette. Il y a manifestement des neutrinos solaires qui donnent ce pic vers l'avant ici. Alors, tout serait bien, sauf que quand on compare le nombre de neutrinos que on mesure avec le nombre de neutrinos attendus basé sur le spectre que nous donnent les théoriciens, eh bien, on s'aperçoit que les données sont à peu près un facteur 2 inférieur aux attentes. Alors, ce détecteur de neutrinos solaires, ce n'est pas le seul. Il y a en fait plusieurs types de détection des neutrinos solaires dans des gammes d'énergie différentes, mais les trois, ça c'est donc le détecteur à eau, un détecteur au chlore, un détecteur au gallium, dans les trois cas, dans les trois types d'expériences, il y a partout un déficit de neutrinos solaires. Donc gardons ça en mémoire et passons maintenant aux neutrinos atmosphériques. Alors je vous ai parlé un tout petit peu des neutrinos atmosphériques tout à l'heure. De nouveau, d'où proviennent-ils ? Eh bien, ils viennent du bombardement des rayons cosmiques qui interagissent sur les couches externes de l'atmosphère. Là, les protons, essentiellement, vont donner des particules secondaires qui, lors de leur désintégration, vont donner des neutrinos. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a à peu près un neutrino du type électronique pour deux neutrinos du type muonique produits. Et ici, j'indique le détecteur, par exemple, Super-Kamiokande, un détecteur enterré qui est sensible aux neutrinos qui viennent de partout, puisque, a priori, les neutrinos ne sont pas arrêtés par la Terre. Alors, là aussi, dans ce détecteur gigantesque, les neutrinos interagissent, produisent des particules chargées qui, lors de leur parcours, vont donner cette lumière Tcherenkov qui va pouvoir être captée par les photomultiplicateurs. Typiquement, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, ceci indique un événement où on reconnaît un électron. Alors, vous voyez que cette lumière Tcherenkov va donner un anneau comme ceci. Vous reconnaissez ici le détecteur déplié. Ça, ce sont les parois du cylindre. Ça, c'est le haut du cylindre, le bas du cylindre. Et la force de ce détecteur, c'est qu'il peut distinguer les électrons des muons, c'est-à-dire distinguer les interactions dues aux neutrinos électroniques des interactions dues aux neutrinos muoniques. Et quel est le résultat ? Et là aussi, ce sont des nouvelles toutes récentes. On va se limiter à cette colonne, à cette ligne-là. Eh bien, pour les événements qui donnent un électron, c'est-à-dire qui sont dus aux neutrinos de type électronique, vous voyez que cette distribution est en accord avec les prévisions. Tandis que pour les événements qui donnent un muon, c'est-à-dire qui sont dus aux interactions de neutrinos muoniques, la prédiction est ceci, et puis les données sont comme ceci. Alors, je devrais dire quelle est cette distribution. Cette distribution, c'est ce qu'on appelle la distribution zénitale, c'est-à-dire, là aussi, l'angle entre la direction du neutrino incident et puis la verticale à l'endroit du détecteur. C'est-à-dire qu'un point ici correspond à des neutrinos qui nous viennent d'en haut, alors qu'un point ici correspond à des neutrinos qui nous viennent d'en bas. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que pour les électrons, il y a accord entre la prédiction et l'expérience, alors que pour les muons, eh bien, s'il y a accord pour les neutrinos qui viennent d'en haut, il y a désaccord, il y a un déficit d'à peu près un facteur 2 pour les neutrinos qui viennent d'en bas. Alors, voyons de nouveau la configuration géographique de ce détecteur. Donc, les neutrinos électroniques qui viennent d'en haut sont ceux qui sont produits dans l'atmosphère 10 km au-dessus du détecteur. Les neutrinos qui viennent d'en bas sont ceux qui sont produits aux antipodes. Et donc, pour les neutrinos de type électronique, il n'y a pas de différence. Pour les neutrinos de type muonique, il semble que les neutrinos de type muonique produits ici, eh bien, aient changé ou aient disparu. Et il n'en reste plus que la moitié quand on arrive ici au niveau du détecteur. Donc, pour résumer la situation des neutrinos, avec les neutrinos solaires, on voit un déficit d'un facteur 2 à peu près. Avec les neutrinos atmosphériques, on voit un autre déficit d'un facteur 2 pour les neutrinos qui ont parcouru toute la traversée de la Terre. Alors, comment est-ce qu'on explique ça ? Eh bien, on explique ça par ce qu'on appelle l'oscillation des neutrinos. Qu'est-ce que c'est que l'oscillation ? C'est une transformation spontanée d'un type de neutrino en un autre type de neutrino. On a vu qu'il y a trois types de neutrinos, nuée, numu, nuto. Eh bien, supposons, par exemple, les neutrinos du Soleil. Le Soleil ne produit que des nuées. Imaginons qu'entre le Soleil et nous, ce nuée devienne un numu ou un nuto ou autre chose. Comme les détecteurs ne sont sensibles qu'aux nuées, il va y avoir disparition du nuée initiale. Alors ce phénomène d'oscillation, c'est quelque chose d'assez général en physique des particules et c'est basé sur des relations simples de mécanique quantique et on peut calculer la probabilité d'un tel phénomène. Et ce qui est intéressant, c'est que cette probabilité dépend des masses des neutrinos. Alors, je n'ai jusqu'à présent pas parlé de masse de neutrinos. Si vous regardez un dictionnaire suffisamment ancien, vous voyez que, et aussi si vous regardez le poème de John Updike, vous voyez que les neutrinos n'ont pas de masse, mais c'est une hypothèse simplificatrice. Et en fait, l'un des grands problèmes actuels sur la physique des neutrinos, c'est de savoir s'ils ont une masse non nulle ou une masse nulle. Eh bien, le phénomène d'oscillation, c'est le phénomène qui va permettre de sonder des masses extrêmement faibles. Il suffit de mettre des chiffres dans la formule ici de la longueur d'onde de ce phénomène pour s'apercevoir qu'on peut être sensible à des masses de l'ordre de 1 électronvolt, c'est-à-dire quelque chose de minuscule puisque la masse de la particule la plus légère, l'électron, c'est 500 000 électronvolts. Alors, on a vu les neutrinos solaires, on a vu les neutrinos atmosphériques. Eh bien, pour résumer la situation des oscillations, c'est-à-dire des problèmes de masse de neutrinos, j'ai pris cette figure très colorée, malheureusement on ne voit pas grand-chose, qui résume tout ce qu'on sait actuellement sur les masses de neutrinos. Alors vous voyez les delta m carrés ici, où 1 électronvolt carré est quelque part par ici, on descend jusqu'à 10-10 électronvolts carrés. Ici, bon, c'est le mélange, c'est-à-dire l'amplitude de l'oscillation. Et les données actuelles semblent dire que pour les neutrinos solaires, la solution est une différence de masse carrée entre les deux neutrinos oscillants qui serait dans cette gamme-là, c'est-à-dire de l'ordre de 10-5 électronvolts carrés, alors que pour les atmosphériques, on serait à 10-3 électronvolts carrés. Alors, est-ce que la situation est claire? Il y a à peu près deux ans maintenant, en première page du Monde, je crois qu'il avait été annoncé que les neutrinos avaient une masse, et c'était effectivement le résultat de cette expérience Super Kamiokande dont j'ai parlé récemment. Où en est-on aujourd'hui? Eh bien, l'indication est toujours là, mais la situation n'est pas complètement clarifiée, parce que si on regarde toutes les indications d'oscillation qu'on a, on a celle des neutrinos atmosphériques avec une différence de masse carrée dans la gamme de 10-3 électronvolts carrés, le déficit du Soleil qui s'interprète par une masse carrée de cet ordre-là. Il y a une autre expérience auprès d'un accélérateur en Amérique, à Los Alamos, qui donne une autre relation de masse encore différente. Or, si on se limite à 3 neutrinos et 3 seulement, bien vous voyez qu'on n'a pas un scénario cohérent de masse de neutrinos. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi conclure? Eh bien, on dit qu'il faut confirmer avec de nouvelles expériences. Et les nouvelles expériences, c'est en particulier un nouveau faisceau de neutrinos qui va être construit à partir de Genève, ici, du CERN, et qui va bombarder des détecteurs qui sont situés sous un tunnel autoroutier au Grand Sasso près de Rome, à 730 km, les 730 km étant supposés suffisants pour que l'oscillation se développe. Des physiciens encore plus ambitieux imaginent déjà une étape supplémentaire, une étape suivante, et vous voyez ici les 3 centres mondiaux d'accélérateurs et de physique des neutrinos, le Japon, les États-Unis et l'Europe, et vous voyez ici des faisceaux de neutrinos qui sillonnent la planète pour essayer de voir des effets de masse de neutrinos. Alors, je voudrais donner un autre aspect de la recherche de neutrinos actuellement, qui est plus centré encore plus vers les astroparticules, c'est la recherche de neutrinos de très haute énergie, ceux qui proviendraient de de noyaux actifs de galaxies en particulier. Et ici, le problème, comme pour les rayons cosmiques, c'est le flux qui est extrêmement faible. Et donc, pour avoir une chance de détecter quelques événements, il faut instrumenter des détecteurs énormes. Et je vous ai montré Super Kamiokande, qui était déjà 50 000 mètres cubes. Eh bien, on développe déjà et on instrumente déjà des volumes très supérieurs, mais au lieu de construire des détecteurs dans la montagne, eh bien, on utilise directement ce que peut offrir la nature, et en particulier ces détecteurs qui s'appellent Amanda. C'est un détecteur qui est construit sous la glace du pôle sud. Vous voyez ici les profondeurs. Ici, c'est 1500 mètres. Ici, c'est 2000 mètres. Et entre 1500 mètres et 2000 mètres dans le pôle sud, eh bien, il y a des chapelets de tubes de capteurs, toujours les mêmes capteurs, les photomultiplicateurs, qui rendent actif un volume d'à peu près 200 mètres par 200 mètres par 500 mètres, c'est-à-dire encore 50 fois plus grand que le Super Kamiokande dont j'ai parlé tout à l'heure. En Europe, on ne reste pas inactif, puisqu'il y a un projet, plus qu'un projet maintenant, et c'est en train de se mettre au point, l'idée d'équiper, alors non plus de la glace, mais sous la mer, au large de Toulon, dans une fosse, là aussi à quelques 2 km de profondeur, et là aussi des chapelets qui seraient ancrés au fond de la mer. Et chacun de ces points ici, c'est un tube photomultiplicateur qui cherche à détecter de la lumière produite par des interactions de neutrinos. Alors on peut renverser un peu les différents acteurs de l'histoire. Et par exemple, on peut aussi rechercher des interactions de neutrinos très énergiques dans l'atmosphère à partir d'un satellite ou, dans ce cas-là, de la station spatiale. Vous avez ici un détecteur qui observe 1000 km par 1000 km de surface terrestre, ce qui donne une cible énorme et qui permet, là aussi, de récolter des événements extrêmement rares. Alors, si je veux passer à la télévision, je dois bientôt m'arrêter, puisque c'est limité à 50 minutes. Et donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche en astroparticules, et pourtant, il y a des oiseaux de mauvais augure qui osent poser la question: est-on arrivé à la fin de la physique? Alors, la fin de la physique, pourquoi? Bien parce que si je reprends mon petit schéma très naïf à la Puvis de Chavannes, vous vous apercevez que la connaissance humaine a déjà atteint ici la frontière de l'infiniment grand. On en est déjà au temps, pratiquement au temps T0 du Big Bang. Quant à l'infiniment petit, eh bien, on commence à buter contre le mur du gigantisme. Et on a vu que l'astroparticule, qui veut être une alternative à la physique auprès d'accélérateurs, eh bien, on est déjà, là aussi, au kilomètre cube sous la mer, aux milliers de kilomètres carrés sur Terre. Donc, on peut se demander, effectivement, si la physique en a encore pour très longtemps, cette physique-là, au moins. Et effectivement, si on analyse un peu ce qui s'est passé au XXe siècle, eh bien, au XXe siècle, les progrès ont été fantastiques, puisqu'on a repoussé d'à peu près 8 ordres de grandeur, c'est-à-dire un facteur 100 millions, les échelles ici dans la connaissance de l'infiniment petit, et puis là aussi, quelque chose comme 5 ordres de grandeur. Alors, la semaine dernière, vous avez vu dans le journal qu'on venait de déchiffrer le génome humain, et certains disent que peut-être, après le XXe siècle qui a été celui de la physique, le XXIe siècle pourrait bien être celui de la biologie. D'autant que la biologie nous laisse entrevoir des médicament nouveau, alors que cette physique-là semble être un petit peu un passe-temps de physicien. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il reste des énigmes fondamentales, et les énigmes fondamentales, elles sont résumées en deux figures. L'une, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente la vitesse de rotation d'objets périphériques dans notre galaxie et dans toutes les galaxies. Les vitesses de rotation, on s'aperçoit qu'elles deviennent constantes quand on s'écarte du centre de la galaxie. Le centre de la galaxie est ici. Et ceci est en contradiction avec la matière visible que l'on peut voir dans une galaxie. La matière visible est concentrée et on attendrait, d'après ce qu'on appelle le théorème du Viriel, on attendrait que les vitesses de rotation suivent cette courbe-là, c'est-à-dire diminuent. Plus on va loin du centre, plus les vitesses diminuent. Et ce n'est pas ce qu'on observe. Et donc, ceci est à l'origine d'une hypothèse que les galaxies ont ce qu'on appelle un halo sombre, c'est-à-dire de la matière sombre qu'on ne voit que par gravitation, mais qui, par ailleurs, n'interagit pas et n'est pas visible. Il y a une autre énigme que certains appellent l'énergie sombre, et l'énergie sombre est basée, et c'est tout nouveau comme résultat, ça date d'il y a 2 ans, c'est basé sur l'étude de supernovae très lointaines, à 10 milliards d'années-lumière de notre galaxie. Et bon, sans expliquer cette courbe, ça semble prouver que l'univers non seulement est en expansion, comme on le sait depuis un certain temps, mais que cette expansion est en accélération. Et ça a été très nouveau. Et donc là, on dit que ceci serait dû à ce qu'on appelle la constante cosmologique, qui est un type d'énergie sombre. Donc matière sombre, énergie sombre, vous voyez qu'on est peut-être à l'âge d'une nouvelle révolution copernicienne. La révolution copernicienne, ça a été le fait de constater que notre planète n'était pas au centre de l'univers. Eh bien ici, si matière sombre et énergie sombre sont vraiment là, et si c'est de la matière différente de notre matière ordinaire, ça signifierait que notre essence même, notre matière ordinaire, n'est pas l'essence majoritaire dans l'univers. Donc quelque chose de complètement énigmatique et complètement nouveau. Il y a différentes hypothèses. L'une en particulier de la matière sombre, c'était que peut-être les neutrinos, qui sont tellement abondants, s'ils ont une petite masse, pourraient constituer cette matière sombre. Et il se trouve que ce n'est pas une hypothèse tenable actuellement. Et donc on cherche des particules complètement différentes des particules de notre monde de tous les jours pour expliquer ces deux phénomènes. Donc, fin de la physique, non. Il y a une nouvelle physique qui commence à naître. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que cette physique et ces énigmes sont un peu ésotériques. Comme je vous disais, la biologie, ça semble avoir des conséquences directes sur la santé de l'humanité, alors que cette nouvelle physique probablement n'aura jamais de retombées technologiques. Et donc, l'autre question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert toute cette recherche ? Alors ici, je vais me permettre une petite envolée lyrique en disant que cette physique, c'est quelque chose à classer au niveau de la poésie ou de la musique, c'est quelque chose qui enrichit l'expérience humaine, la connaissance est quelque chose d'important, et peut-être bien que quand la science aura résolu tous les comment de l'univers, le pourquoi en sera un peu plus clair. Et après tout, le pourquoi, c'est bien la question la plus fondamentale posée à l'homme. Et donc je vais terminer avec cette phrase tirée du livre des Proverbes. « Faute de vision, un peuple décline. » Voilà.
Parler dans le micro, ça doit marcher.
Ça fonctionne.
Allô.
Oui, ça marche. Bien.
Oui, bonjour monsieur. Je voulais simplement poser la question suivante. Si je ne me trompe pas, parmi les énigmes que vous venez d'évoquer, et en particulier celle qui touche à l'incertitude sur la masse des neutrinos, n'existe-t-il pas aussi un questionnement sur le fait que tous ces neutrinos semblent avoir un spin tous orientés de la même façon ? Et pourquoi on ne trouve pas la double orientation de ces particules dans l'ensemble de leur population ?
Alors effectivement, c'est directement lié au problème de la masse. Les neutrinos sont des particules qu'on appelle d'hélicité gauche pour les neutrinos, et les antineutrinos d'hélicité droite. Et le fait d'avoir une masse demande à ce qu'il y ait une petite composante de droite dans l'hélicité gauche et de gauche dans l'hélicité droite. C'est comme ceci qu'on peut construire des termes de masse. Alors, il y a là aussi, mais ça devient très un peu compliqué, il y a deux modèles de neutrinos à masse. Il y a ce qu'on appelle le modèle de Dirac et le modèle de Majorana. Vous voulez des détails ? Effectivement, les problèmes d'hélicité sont directement reliés à la masse. Et s'il y a masse de neutrinos, ça veut dire que les neutrinos ne sont pas seulement gauche, mais ont une petite partie d'hélicité droite.
S'il y a masse ou pas masse, quelles sont les conséquences ?
Alors, l'une des conséquences dont on parlait il y a seulement une dizaine d'années ou moins, c'est que les neutrinos étant tellement plus abondants que toutes les autres particules de matière dans l'univers, il suffisait d'une masse excessivement petite pour que la masse totale des neutrinos soit supérieure à la masse totale visible. Et donc, ça pouvait expliquer en particulier cette masse sombre des galaxies, et ça pouvait influer sur le devenir de l'univers, puisque l'univers est actuellement en expansion, mais si la masse totale de l'univers est suffisante, on se disait que cette expansion devait terminer et puis commencer une contraction. Et pour ceci, il suffisait de masse de neutrinos de l'ordre de quelques dizaines d'électronvolts, donc quelque chose de finalement pas très grand. Alors, les résultats de Super-Kamiokande, ces oscillations de neutrinos atmosphériques, semblent dire, si on les interprète comme preuve d'oscillation, il semble dire que la masse des neutrinos, la troisième famille, les neutrinos tau, ont de l'ordre de 50 milliélectronvolts, ce qui est très faible par rapport pour avoir une influence sur la masse de l'univers. Quoique, avec une telle masse, la somme des masses des neutrinos égale à peu près la masse visible de l'univers. Donc, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas suffisant pour influencer le futur de l'univers.
Monsieur là-haut. Oui, allez, passez. Allez-y, vous avez un micro.
Ça marche, oui. Bonsoir, monsieur. Vous avez parlé de l'énigme sur la matière sombre. Est-ce qu'il y a une particule nommée le tachyon ou une série de particules, enfin j'ai cru entendre parler de l'existence de ce type de particules qui irait plus vite que la lumière?
Alors effectivement, il y a, mais ce sont les théoriciens qui, les théoriciens sont très imaginatifs toujours, et donc ils s'aperçoivent que si une particule a une masse supérieure à la masse de l'univers, une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, il reste tout le temps avec une vitesse supérieure à cette vitesse de la lumière. C'est-à-dire que même en perdant de l'énergie, il se rapproche de la vitesse de la lumière, mais par au-dessus. Il n'y a aucune preuve, pour le moment, expérimentale de tachyon. Et le tachyon n'a rien à voir avec ces masses sombres d'univers. Les hypothèses pour la masse sombre, c'était soit les neutrinos, mais ça semble être exclu actuellement, soit des actions. Alors les actions, ce sont des particules différentes qui auraient très très peu de masse et on les recherche dans des expériences totalement différentes, soit, et c'est le modèle à la mode, soit des particules supersymétriques. Alors les particules, la supersymétrie, c'est une théorie qui va au-delà des théories actuelles, qui essaye d'unifier les bosons et les fermions, et ça engendre nouvelles particules, une série, en fait ça double toutes les particules qu'on connaît avec leur pendant supersymétrique, et ces particules supersymétriques auraient des masses très élevées. Et on recherche effectivement de telles masses élevées, soit auprès d'accélérateurs, soit aussi dans la matière noire, en essayant de voir des interactions de ces particules dans des détecteurs cryogéniques, des bolomètres très sensibles. Il y a aussi l'hypothèse que simplement cette matière sombre de l'univers pourrait être formée par des planètes du type Jupiter. C'est ce qu'on appelle les naines brunes. Et il y a trois expériences qui ont recherché ça très activement, mais il semble que ce soit exclu. Enfin, les naines brunes, c'est essentiellement des étoiles qui ont un dixième de la masse du Soleil, et donc qui ne sont pas suffisamment massives pour pouvoir engendrer des processus nucléaires, et donc qui sont sombres, qu'on ne voit pas. Mais on les recherche par d'autres phénomènes et ils ne semblent pas être là.
Merci.
Monsieur. Oui.
Non, je voulais savoir si on pouvait confiner les neutrinos avec un champ physique.
Alors, les neutrinos n'ont pas de charge électrique les neutrinos n'interagissent pratiquement pas, donc il n'y a aucun moyen pour influencer leur parcours. Les neutrinos, ils font absolument ce qu'ils veulent, même si dans la matière, ils peuvent, du fait des interactions qu'on mesure, les interactions qu'on appelle faibles, ils peuvent polariser le milieu, donc ils peuvent faire quelque chose, mais vraiment, pratiquement, c'est très difficile de les influencer.
Oui, monsieur. Oui, je veux savoir quelle est la différence de nature entre les différents neutrinos électroniques, muoniques, tauiques. Est-ce que c'est une énergie différente?
Alors, c'est la même différence qu'entre un électron, un muon et un tau. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des leptons qui ont un nombre leptonique différent. Alors, est-ce qu'ils ont une différence? On aimerait bien voir une différence au niveau des masses. Par exemple, l'électron, le mu, le tau se distinguent par leur masse. Et pour les neutrinos, il est probable que ce soit la même chose, c'est-à-dire trois masses différentes. Mais pour le moment, comme on n'a pas d'assurance sur les masses, on ne peut pas le dire.
Et une deuxième question, les oscillations sont spontanées?
Oui.
C'est-à-dire c'est une transformation spontanée?
Spontanée, oui. Alors, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer. Il se trouve que les trois neutrinos dont j'ai parlé, nué, numu, nuto, c'est ce qu'on appelle des états propres des interactions. Et ce ne sont pas nécessairement les états qui vont se propager de manière individuelle. Et les états qui se propagent, ce sont des états qui sont bien définis en énergie, c'est-à-dire en masse. Et donc vous devez imaginer que les états qui sont produits sont en fait des combinaisons d'états massiques. Et les états massiques se propagent à des vitesses légèrement différentes puisqu'ils ont des masses différentes. Et quand on les regarde suffisamment loin, la combinaison qu'on reconstruit n'est pas la combinaison initiale. C'est pour ça que ça donne une génération d'un neutrino différent de celui de départ.
Monsieur.
Ici, s'il vous plaît. Merci. J'ai bien suivi votre exposé concernant Super Kamiokande, et donc il existe des neutrinos qui apparaissent à Super Kamiokande sous forme de neutrinos muoniques tout en ayant touché la Terre à l'opposé en diagonale sous la forme de neutrinos électroniques en provenance du Soleil, par suite précisément des oscillations dont vous venez de parler. Peut-on dire que sur le Soleil, le même phénomène peut se produire et devrait théoriquement se produire, c'est-à-dire que au lieu de production des neutrinos solaires, il y a des neutrinos qui traversent la masse solaire et réapparaissent de l'autre côté de cette masse sous forme de neutrinos muoniques.
Alors, c'est effectivement l'une des possibilités pour expliquer le déficit solaire, et c'est un phénomène qu'on appelle MSW, qui serait une oscillation à l'intérieur même du Soleil, parce que la matière amplifie les effets d'oscillation. Et donc, les neutrinos sont produits au centre même du Soleil, dans les 5% internes du Soleil. Donc, ils doivent traverser 700 000 km de matière solaire. Et là, effectivement, n'importe quoi peut se passer, en particulier une oscillation, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir numu ou nuto, ce qui expliquerait qu'on ne voit qu'une partie des nuées. C'est effectivement l'une des hypothèses.
Monsieur.
Bonsoir, monsieur.
Allez-y, parlez dans le micro.
Bonsoir, monsieur. Vous avez défini tout à l'heure la longueur d'oscillation d'un neutrino comme étant le quotient entre deux quantités, une énergie en électrovolts divisée par une énergie au carré électrovolt carré. Comment est-ce qu'on peut trouver une distance ?
Pardon, j'ai pas compris la fin de la question.
Comment est-ce qu'on peut trouver une quantité homogène à une distance ?
En physique des particules, on utilise des unités qui sont tout à fait spéciales, où une énergie est inversement proportionnelle à une distance, parce qu'on pose tout le temps C égale 1, c'est la vitesse de la lumière, et H bar égale 1. Et donc, ça fait des choses qui n'apparaissent pas forcément cohérentes, mais elles le sont dès que vous utilisez des règles de passage basées sur C égale 1 et H bar égale 1. Donc la longueur pour donner un ordre de grandeur, la longueur d'oscillation, bon, il faudrait que je retrouve la formule, c'est 2,5 fois l'énergie sur une énergie au carré. Donc ça semble être un 1 sur une énergie, mais c'est tout à fait cohérent avec une distance quand vous faites H bar égale 1.
Merci.
Bon, on va prendre encore deux, trois questions. Monsieur.
Oui, bonsoir, monsieur. J'aimerais nous savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, des oscillations de neutrinos en accordant aux neutrinos une masse nulle. Et une deuxième question, comment est-ce qu'on explique finalement le fait qu'un neutrino interagisse très très peu avec la matière ?
Bon, alors, la première question, en principe, non. S'il n'y a pas de masse, on n'a pas ce changement de vecteur propre, si vous voulez. Et donc, les neutrinos vont aller tous à la vitesse de la lumière. Et donc, vous n'avez pas changement de déphasage, si vous voulez, entre les différentes composantes. Et si vous partez d'un nuée, vous obtiendrez tout le long de son parcours le même nuée. Et numu, vous obtiendrez toujours le même numu. Donc il ne peut pas y avoir d'oscillation. Hein. L'oscillation, c'est un passage entre un nuée et un numu ou un nuto. Donc s'il n'y a pas de masse, il n'y a pas d'oscillation. L'autre question, c'était Alors, il y a quatre interactions fondamentales entre particules. Qu'on appelle la gravitation, l'interaction électromagnétique, l'interaction faible et l'interaction forte. L'électromagnétique, vous savez ce que c'est. Forte, c'est ce qui lie les particules à l'intérieur du noyau. L'interaction faible, c'est celle qui, à laquelle on doit, par exemple, les réactions de fusion dans le Soleil. Eh bien, il se trouve que les neutrinos, parce qu'ils n'ont pas de charge électrique, ne subissent pas l'interaction électromagnétique et ne subissent pas l'interaction forte. Donc, ils ne subissent que cette interaction faible qui est, comme son nom l'indique, beaucoup plus faible en amplitude. C'est de l'ordre 10-38 par rapport aux autres interactions. C'est du fait même de sa nature. C'est ce qu'on appelle un lepton neutre et il ne subit que cette interaction-là.
On va prendre encore deux questions. Monsieur et puis monsieur.
Oui, bonsoir. Une question pour le conférencier et après pour l'organisation. La supernova de 1987, est-ce qu'on a observé un décalage dans le temps pour l'arrivée des neutrinos et des photons Et qu'est-ce qu'on a appris à propos de ces neutrinos lors de cette explosion?
Oui, alors, oui, c'est une bonne question. Et en particulier, c'est relié à la masse des neutrinos, parce que les photons, en principe, vont à la vitesse de la lumière, alors que les neutrinos, s'ils ont une masse, doivent aller à une vitesse légèrement inférieure. Or, comme il y a une distance de 150 000 années-lumière, on pouvait espérer, et on a mis des limites sur des masses de neutrinos, justement, à partir de l'arrivée du signal de neutrinos qu'on a vu. Alors, paradoxalement, les neutrinos sont arrivés avant, parce que les photons diffusent, hein, c'est un petit peu comme les neutrinos du Soleil nous arrivent 800 secondes après leur production au centre du Soleil, alors que les photons qui nous arrivent du Soleil mettent quelques millions d'années, je crois, pour venir du centre du Soleil à la surface du Soleil et nous atteindre. Donc là, c'est la même chose. Mais le problème de la masse des neutrinos, oui, ce qu'on a fait, ce n'est pas une comparaison entre l'arrivée des neutrinos et l'arrivée du signal optique, qui lui s'étend hein, sur beaucoup de minutes et d'heures. Il a duré plusieurs mois, ce signal optique. Mais juste en comparant l'arrivée seule des neutrinos. Pourquoi ? Parce que les neutrinos ayant des énergies différentes, eh bien les plus énergiques auraient dû arriver en premier, hein, puisqu'ils ont une vitesse supérieure. Et donc, en comparant le spectre d'arrivée des neutrinos, en sachant que le pulse, le signal de neutrinos a été émis en 10 secondes, eh bien, on en déduisait à cette époque-là une limite sur la masse de neutrinos à moins de 20 électronvolts. C'est-à-dire que c'était un résultat qui était tout à fait comparable au résultat en laboratoire à cette époque-là. Alors, ce qu'on aurait aimé voir, c'était un spectre de neutrinos électroniques, et puis plus tard, un spectre de neutrinos muoniques et un spectre de neutrinos toïques. Mais ça, c'était un rêve. Et du fait des statistiques, on a juste vu une arrivée, un signal de neutrinos qu'on suppose être en fait les antineutrinos électroniques de la supernova.
J'aimerais savoir en quoi les observations réalisées au cours des éclipses solaires ont-elles pu contribuer à une meilleure compréhension des neutrinos, notamment des phénomènes de déficit. Merci.
Alors là, je ne connais qu'une expérience lors d'une éclipse solaire sur les neutrinos, et c'est moi qui l'ai fait avec un télescope et un étudiant. Comment ? Au Vietnam, oui, au Vietnam, oui. Bon, c'était une idée d'aller voir... Non, je ne crois pas avoir amené le transparent. L'idée, c'était que le Soleil produit des photons visibles et puis des neutrinos dans son centre. Alors, si les neutrinos ont une masse, ils ont une autre propriété que je n'ai pas du tout abordée ici, c'est qu'ils peuvent se désintégrer. Et en particulier, avec les masses qu'on supposait et qu'on suppose encore du fait des oscillations, il y avait une certaine possibilité pour que les neutrinos solaires se désintègrent en donnant un photon et puis un autre neutrino. C'est ce qu'on appelle une désintégration radiative. Et alors, ces photons, là aussi en mettant les chiffres qui sont à la mode, ces photons tombent dans le visible, juste par coïncidence. Et donc l'idée, c'était d'aller voir des photons visibles venant du Soleil. Sauf que des photons visibles venant du Soleil, il y en a 10 puissance 17 par centimètre carré et par seconde. Et donc, on mettait la Lune entre le Soleil ici. La Lune arrêtait tous les photons. Et comme les neutrinos viennent du centre du Soleil, en prenant une photo de la Lune pendant une éclipse, un tel phénomène se serait révélé par une tache lumineuse au centre de la Lune. Et donc, toute l'idée, c'était de prendre la photo de la Lune et puis essayer de voir un excès lumineux au centre, dans les 5% centraux de la Lune. Et donc, ça met une limite sur les temps de vie de neutrinos dans un certain schéma de désintégration et de masse de neutrinos.
Bien, bah, écoutez, merci beaucoup.